Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers amis, c'est à vous, jeunes et adolescents, que je m'adresse aujourd'hui pour vous parler de la vertu de pureté. Je sais bien que c'est un grave problème, c'est souvent un problème même difficile pour beaucoup d'entre vous. Cependant, s'il est facile de perdre la belle vertu de pureté, il est également très facile de la conserver et même de la retrouver. Je vais commencer ce sermon en vous disant que la chasteté ou la pureté, hein, c'est quasiment la même chose, pour Saint Jean Bosco est la reine des vertus, que pour Saint François de Sales, elle est le lys de la vertu. Pour tous les auteurs spirituels, elle est l'angélique vertu, la vertu des anges qui fait des hommes des anges. Je vous invite, plus que d'habitude encore, à lire les textes que je vous mets après ce sermon, deux textes de Saint Jean Bosco, l'un dans les conseils aux jeunes, que j'espère vous avez tous lu et relu, et l'autre dans sa vie de Michel Magon, qu'également j'espère que vous avez tous lu. Voici ce que dit Saint Jean Bosco dans les conseils aux jeunes. La pureté est la vertu reine, la vertu angélique. Elle est un trésor de tel prix que les jeunes qui la possèdent sont semblables aux anges de Dieu, bien qu'ils ne soient que des hommes mortels sur la terre. Ils seront comme les anges de Dieu, ce sont les propres paroles du Sauveur. Cette vertu est comme le centre autour duquel se réunissent et se conservent tous les biens. Et si par malheur on la perd, toutes les autres vertus sont perdues avec elle. Mais bien sûr, ça c'est moi qui l'ajoute, non pas Saint Jean Bosco, si on la retrouve, on retrouve toutes les vertus avec elle. Cependant, il restera toujours une blessure, tandis que celui qui aura conservé la pureté sans jamais la perdre n'aura pas cette blessure ou cette cicatrice, disons. Saint François de Sales dit la même chose, « La chasteté est le lys des vertus ». Et dès cette vie, elle nous rend presque semblables aux anges. Rien n'est beau que par la pureté, et la pureté des hommes, c'est la chasteté. Et rappelez-vous la béatitude, « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Alors je voudrais vous mettre en garde, mes bien chers amis, et en même temps vous expliquer pourquoi la vertu de pureté est tellement importante. Tout d'abord, la vertu de pureté, comme nous venons de le dire, vous rend semblable aux anges, et par conséquent, c'est elle qui vous fait entrer dans l'intimité de Dieu. Elle est le complément de la communion. C'est par elle que vos communions seront profondes, intimes, avec Dieu. Et à l'inverse d'ailleurs, toute communion bien faite avec la recherche de l'intimité de Dieu vous donnera nécessairement la vertu de pureté. Déjà, rien que cela est très important parce que nous sommes destinés tous à vivre dans la sainte intimité de Dieu. Nous sommes tous destinés à vivre comme des anges, au ciel, au milieu des anges, à côté de la Sainte Vierge, notre Reine, qui est aussi Reine des anges. Mais dès ici-bas, il faut voir plus loin que votre intérêt personnel. Il faut voir également que la pureté est très liée à la charité envers le prochain. L'impureté, c'est l'égoïsme, et cela tue et s'oppose radicalement à la charité envers le prochain. Celui qui est impur pense à soi et ne pense plus aux autres. Celui qui est impur non seulement pense à soi-même, mais il pense à satisfaire ce qu'il y a de plus bas en lui. Alors non seulement il ne pense pas aux autres, mais il suffit qu'un autre le dérange pour qu'il l'envoie promener, qu'il le rejette violemment. Au contraire, la pureté donne une délicatesse d'âme qui attire les bons comme des amis et qui même rayonne sur les moins bons et les attire pour les convertir. Vous savez qu'une amitié, pour être authentique, doit être très pure. Et puis, cela va plus loin encore. La vertu de pureté est au service de l'Église et de la chrétienté. On peut affirmer que c'est à travers la pureté que la foi a construit la chrétienté. La pureté est au service de l'Église, tout d'abord à travers le mariage. Ça, mes chers amis, vous en êtes bien convaincus, c'est évident. Mais vous n'êtes peut-être pas assez convaincus que c'est la qualité de la pureté et de la chasteté qui fait la qualité du mariage. Il faudrait surtout ne pas croire que le mariage résout tous les problèmes d'impureté. Au contraire, celui qui n'est pas pur, s'il se marie sans avoir récupéré une chasteté forte, profonde, stable, rendra malheureuse toute sa famille. Mais cela va plus loin encore. Vous savez que le mariage est essentiellement destiné à donner des prêtres à l'Église de Dieu. Une éducation réussie dans une famille, c'est une éducation par laquelle la famille donne des prêtres et des religieux et des religieuses à l'Église de Dieu. Parce que le mariage, nous dit saint Thomas d'Aquin, a pour but de former les adorateurs du vrai Dieu. Les parents forment les adorateurs du vrai Dieu. Et pour que les hommes adorent Dieu, ils ont besoin de prêtres. Or, c'est dans la famille que sont formés les prêtres. C'est par des époux mariés que sont formés des prêtres. Et par conséquent, comme la vocation sacerdotale, la vocation religieuse aussi, sont fondées principalement autour de la vertu de pureté. Bien sûr, l'amour de Dieu, la foi, mais je vous l'ai dit, c'est la pureté qui donne à la foi et à l'amour de Dieu leur élévation, leur transparence, leur qualité. Eh bien, les vocations sacerdotales et religieuses sont le fruit de la chasteté des parents. Je vous expliquerai plus tard dans un autre sermon, ou bien vous n'avez qu'à, si vous avez l'âge, écouter les sermons que j'ai faits sur le mariage, et notamment sur l'importance de la chasteté dans le mariage. Donc je vous expliquerai un autre jour ce qu'est la vertu de chasteté dans le mariage. Ce que je veux vous dire actuellement, vous êtes adolescent, vous n'êtes pas encore engagé dans le mariage. Ce que je veux vous dire, c'est que la pureté est très importante pour non seulement la réussite du mariage, mais pour que le mariage porte les fruits qu'il doit porter, c'est-à-dire donner des prêtres, des religieux et des religieuses. Quand vous serez plus âgé, vous verrez comment mettre cela en œuvre, comment le pratiquer. Mais actuellement, où vous êtes des adolescents, plus ou moins jeunes, plus ou moins âgés, je vous recommande de développer en vous la sainte vertu de pureté pour justement vous rendre apte à donner, si le bon Dieu vous demande de vous marier, à donner à l'Église de Dieu les religieux, les religieuses et les saints dont elle a tant besoin aujourd'hui. Enfin, c'est une évidence, la vertu de pureté est absolument nécessaire pour que vous entendiez l'appel de Dieu si le bon Dieu veut vous choisir à cet état de vie, sacerdotale ou religieuse. Voilà pour l'importance de la vertu de pureté. Voyons maintenant comment on la conserve et comment on la perd, hélas. Tout d'abord, il est très facile de perdre la vertu de pureté, cela par de mauvaises images, même si on ne s'est pas longtemps attardé, par de mauvaises conversations, même si on n'y a pas pris part et qu'on n'a fait que les écouter ou même que les entendre. Après cela, cela vous trotte dans la tête. Les dangers contre la pureté sont comme de la glu. Il suffit de les effleurer pour s'y coller en ayant beaucoup de mal à s'en débarrasser et pour y être retenu. Il est très facile de perdre la vertu de pureté, non seulement en allant vers les mauvais camarades et les dangers évidents, mais également en s'approchant de l'ombre de ce qui est impur. Ah, j'allais oublier de vous dire, bien entendu, vous n'avez jamais dans la poche un de ces trucs qu'on appelle des smartphones et qui sont des boîtes à impureté. Ça commence déjà par l'ombre de l'impureté, vous ne vous en rendez pas compte, et puis après l'ombre, eh bien, arrive le démon, dont l'ombre n'était que l'annonce. Ce sont des boîtes à impureté, et sur lesquelles il suffit d'un clic pour perdre cette belle vertu. Un téléphone 9 touches suffit largement, et même là, le téléphone 9 touches vous tient beaucoup trop proche la plupart du temps de camarades qui ne méritent pas que vous vous intéressiez à eux. Et je vais vous donner, mes chers amis, des conseils pour ceux d'entre vous qui sont tombés. Tout d'abord, qu'ils ne se découragent pas. On peut très bien récupérer la vertu de chasteté. Il faut se confesser souvent et avec le ferme propos. C'est cela le plus important, le ferme propos. J'ai vu des jeunes qui se confessaient souvent, mais sans chercher à faire des efforts pour améliorer la situation. Alors non seulement ils ne faisaient pas de progrès, mais à la longue, leurs confessions finissent par être malhonnêtes, voyez, hypocrites. Et alors cela finit par ajouter un péché de sacrilège au péché d'impureté. Le sacrement de pénitence n'est pas une petite mécanique qui vous purifie malgré vous. Elle est un grand don de Dieu, un trésor, qui donne à vos efforts de porter du fruit, alors que sans elle, vos efforts demeureraient vains, c'est-à-dire inutiles. La confession ne vous dispense pas de faire des efforts, elle vous rend capable de faire des efforts fructueux. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est de ne jamais vous décourager et de toujours reprendre vos efforts, même après une chute. Infligez-vous une pénitence en cas de chute. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit forte ni violente, mais il est nécessaire qu'elle soit nette, précise, avec vraiment l'intention de réparer. Une privation de dessert, du pain sec et de l'eau un matin au petit déjeuner, une dizaine de chapelets les bras en croix. Enfin, priez la Très Sainte Vierge avec conviction. Avec conviction, c'est-à-dire, encore une fois, c'est comme pour la confession, la Sainte Vierge ne vous dispense pas de faire des efforts. La Sainte Vierge vous encourage à faire des efforts. Elle rend fructueux vos efforts. Et elle fait que des efforts, même petits, deviennent très fructueux s'ils sont faits vraiment avec la volonté de lui plaire, à elle, la Sainte Vierge. Enfin, je vous recommande de méditer sur l'enfer. Quand on voit ce drame de l'éternité de l'enfer, on se dit qu'il faut être fou pour perdre l'éternité bienheureuse et croupir éternellement dans l'enfer simplement pour quelques minutes, quelques secondes de satisfaction passagère si honteuse. Mais rassurez-vous, il est très facile de conserver la vertu de pureté et même de la récupérer. On récupère ou on garde la vertu de pureté par la communion fréquente, par la confession sincère et bien faite, par la dévotion à Marie, mais là encore, il faut que ces communions, ces confessions, cette dévotion à la Sainte Vierge soient faites dans le but de plaire à la Sainte Vierge, d'augmenter en vous son amour pour elle. C'est cela qui vous donnera de l'élan pour maîtriser votre corps, maîtriser votre nourriture, faire des pénitences simples mais efficaces. En définitive, une vie chrétienne humble et pieuse, évitant tout péché véniel de propos délibérés. Vous savez ce qu'est un péché véniel de propos délibérés, hein ? C'est un péché véniel fait exprès, par opposition au péché qu'on a fait par inadvertance, c'est-à-dire sans faire attention. Celui qui néglige le péché véniel tombera nécessairement dans des fautes plus graves et notamment dans l'impureté. Celui qui est attentif à fuir le péché véniel, au moins le péché véniel de propos délibérés, est certain de demeurer dans la grâce de Dieu et donc de conserver la pureté. Vous voyez qu'il est assez simple de garder la vertu de pureté. C'est une vie chrétienne simple, normale, humble, pieuse. Je terminerai par une recommandation, celle de faire l'apostolat de la pureté. Mes chers amis, que votre pureté rayonne pour attirer ceux qui la désirent. Naturellement, si vous êtes pur, vous attirerez ceux qui aiment la vertu de pureté, ou bien ceux qui, hélas, l'ont perdue mais veulent la retrouver auprès d'amis solides. Voyez dans l'extrait de la vie de Michel Magon que je vous donne ci-dessous, comment un camarade lui écrit tout simplement pour lui demander ses moyens de conserver la vertu de pureté, parce que ce camarade nécessairement avait remarqué que Michel Magon était pur. Sinon, ce n'est pas à lui qu'il aurait demandé des conseils. Eh bien, je trouve cela beau, cette confiance mutuelle entre jeunes, pour s'entraider non seulement à aimer le bon Dieu, mais à vivre dans la vertu de pureté. Et puis, aller jusqu'à encourager au repentir ceux qui l'ont perdu, cette vertu. Donnez-leur de bons conseils, priez pour eux, entraînez-les au confessionnal. Réécoutez les sermons que je vous ai donnés déjà sur l'importance de trouver un bon ami prêtre en qui vous ayez confiance, sur l'importance d'avoir une grande confiance en vos parents et de vous appuyer sur eux pour cette vertu comme pour toutes les autres. Que Dieu vous bénisse par Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.